Tout d'abord, l'honorable José Werner, ministre de la Coopération internationale, ministre de la Francophonie et des langues officielles, honorable Dr. Franck, ministre de la Santé, Mexique, merci d'être là, Son Excellence Xiomara Castro de Zelaya, première dame du Honduras, Monsieur Pierre Pio, directeur exécutif en USIDA, Monsieur Julian Bond, président de l'Association nationale pour l'avancement des gens de couleur, et nos jeunes leaders, merci d'être venus. Ils vont se présenter eux-mêmes. S'il vous plaît, votre nom et le pays d'où vous venez. Je suis du Mexique. Je travaille avec le PPFE et la coalition de jeunes. Je travaille au départ dans le domaine de la procréation et ensuite je me suis rendu compte qu'il fallait absolument axer notre approche sur le problème du VIH-SIDA. Bonjour, je suis d'APA+, le réseau d'Asie-Pacifique des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Je vis en Indonésie, j'ai 20 ans. Je veux parler de la participation des jeunes femmes à la lutte contre le VIH-SIDA, les jeunes de tous les pays, parce qu'ils ont un rôle très important à jouer. Je suis Alicia Ross d'Australie. Je fais partie du service IE, donc la participation des jeunes à la lutte contre le VIH-SIDA. Nous voulons que les jeunes puissent faire deux choses. D'une part, comprendre la nature du VIH-SIDA et ensuite être convaincus qu'ils peuvent y apporter quelque chose. Quand on parle de partenariat adulte-jeune, ce qui importe, ce n'est pas le terme jeune ou adulte, c'est le terme partenariat. Les jeunes ont un rôle important à jouer dans la lutte contre le VIH-SIDA. Je suis Makot Edwin de la Tanzanie et je travaille avec Youth Challenge International. Il y a eu un grand nombre de jeunes infectés, ils ne savent pas comment se protéger et c'est ça, c'est ma motivation. Merci, bonjour à tous, je viens de Vancouver, je travaille avec une organisation qui s'appelle Coast Clear. Nous travaillons auprès des toxicomanes pour les sensibiliser, surtout les jeunes qui vivent dans la rue. Je suis ici parce que je suis convaincue qu'il faut respecter les droits de la personne de tous les jeunes, qu'ils vivent dans la rue, qu'ils soient toxicomanes ou qu'ils soient infectés. Je travaille avec l'Association des Nations Unies ici au Canada. Le monde fait face à une maladie, à un niveau qu'on n'a jamais connu auparavant. Les jeunes sont les plus touchés. Je pense que les jeunes doivent pouvoir vivre leur vie sans être abattus par cette maladie, le VIH-SIDA.
Joël Vengo, je viens de la République démocratique du Congo et je travaille avec la coalition mondiale de jeunes contre le VIH-SIDA. Ma motivation en ce jour, c'est que pendant très longtemps, au cours de nombreuses conférences, on a cessé de dire que les jeunes sont au centre de la réponse, mais la réalité sur le terrain est contraire. Ma motivation en ce jour est qu'on sort de ces slogans et qu'on entre et que des actions concrètes soient menées en faveur des jeunes. Merci.
Hi everyone, I'm... Bonjour, je viens de la République de Macédoine. Je suis militante au sein de l'ONG, MIA, la plus ancienne qui lutte contre le SIDA dans notre pays. Et aussi, je suis coordonnatrice. Je suis née dans un monde où tous les 15 secondes, un jeune est infecté par le VIH-SIDA. Et j'ai été élevée en étant convaincu qu'il fallait lutter contre cette pandémie et je souhaite apporter ma contribution. Merci. Merci. Je suis Keisha Effs de l'île du Soleil qui s'appelle Jamaïque, ambassadrice du Commonwealth pour ce qui est de la lutte contre le VIH-SIDA. Ce qui me motive à me joindre à cette lutte, c'est le fait sans précédent que nous sommes tous vulnérables, pouvons donc être touchés par cette infection.
Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Bessor, je viens du Bénin, j'appartiens à un groupe qui a élaboré un projet sur la santé sexuelle de la reproduction des jeunes et ados, y compris le VIH-SIDA. Je viens partager mes expériences avec mes pairs et surtout recevoir plus d'expériences en matière de sexualité auprès de mes adultes. Et surtout, je suis très contente d'avoir les leaders devant moi pour m'assurer qu'ils vont nous écouter, nous les jeunes. Merci.
Buenos días.
Bonjour. Je suis Damaris Pérez Valladares. Je viens du Salvador et grâce à l'appui de Planning International, j'ai pu me joindre à vous. Une de mes grandes motivations, c'est de mieux connaître le VIH-SIDA et transmettre ensuite cette information aux jeunes de mon pays. Je vais donc apprendre, savoir, connaître des renseignements très importants pour les diffuser par la suite en Amérique latine parce que il n'y a pas beaucoup d'informations dans nos pays. Ce n'était pas toujours juste les renseignements que nous recevons et nous ne les avons pas non plus au moment opportun. Merci beaucoup.
Good morning.
Bonjour. Je suis des États-Unis, coordonnatrice de la Coalition mondiale des jeunes contre VIH-SIDA. Le VIH-SIDA a été découvert un an avant ma naissance, mais les jeunes ne savent toujours pas comment se protéger contre le VIH-SIDA. Je crois au partenariat entre jeunes et adultes pour s'assurer que les jeunes disposent des compétences, des renseignements pour avoir une action efficace pour que tous les jeunes sachent comment se protéger et comment et diffuser cette information à leurs pairs. Bonjour, je suis du Nigeria, Emeka Ekwasemba, et suis représentante d'une ONG. Les jeunes et les femmes sont infectées chaque jour, mais ne savent pas comment se protéger. Je suis ici pour aider les jeunes et les femmes à vivre avec le VIH-SIDA. Merci. Donc, je souhaite la bienvenue à ce forum de leadership de haut niveau pour les jeunes pour aider à définir un rôle plus important de la part des jeunes, comment avoir une influence sur la scène nationale et internationale, permettre aux jeunes de participer au processus décisionnel, l'imputabilité, malgré les nombreux programmes politiques en faveur des jeunes. Ce sont rarement les jeunes qui décident de la teneur de ces programmes. Nous savons qu'il y a 6 000 jeunes infectés chaque jour. Plus de 1 000 jeunes sont venus à Toronto pour faire entendre leur voix, plus du double qu'à Bangkok. Nous venons de toutes les régions du monde et les jeunes leaders vont demander aux leaders du monde pourquoi ils ne reçoivent toujours pas l'information, les fournitures nécessaires. 25 ans depuis le début de la pandémie et nous sommes très heureux d'être ici et nous espérons contribuer à ce que les leaders du monde entier respectent leurs engagements. Je vais maintenant présenter le ministre de coopération internationale, José Werner. Il est élu député en janvier 2006. dans le comté de Louis-Saint-Laurent, ensuite nommé ministre. Elle a été pendant 20 ans dans le domaine de la communication, travaillé sous l'ancien Premier ministre du Québec, Robert Bourassa, et le président de l'Assemblée du Québec, et a travaillé en étroite collaboration avec le ministre de la Santé. Elle a consacré beaucoup de temps à réaliser des levées de fonds pour une fondation consacrée aux enfants. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de vous accueillir à ce Forum des jeunes dans le contexte de la conférence CIDA 2006. Je suis fermement convaincue que les jeunes doivent absolument participer à la lutte contre le VIH-SIDA. Avant de commencer, permettez-moi de remercier les organisateurs de ce forum, des jeunes comme vous, qui ont investi leur temps, leur énergie créatrice et leur âme même dans l'élaboration et la recherche de solutions axées sur les jeunes.
Un grand nombre de jeunes se rencontrent pour discuter des répercussions du VIH-SIDA sur leurs pères. Je suis convaincue que l'énergie que vous investissez dans cette rencontre portera des fruits. Vous établirez les bases qui permettront à davantage de jeunes de prendre part à la prise de décision relative aux politiques et aux programmes liés au VIH-SIDA. Je considère que la participation accrue des jeunes est essentielle à la formulation de solutions d'avenir. À titre de ministre canadienne de la coopération internationale, je souhaite que de plus en plus de jeunes Canadiens participent à l'effort mondial de lutte contre le VIH-SIDA. L'apport des jeunes partenaires de l'Agence canadienne de développement international est inestimable. Je sais que plusieurs de ces partenaires sont présents aujourd'hui et je saisis l'occasion de les remercier pour l'incroyable travail qu'ils accomplissent.
Nous savons que les jeunes sont durement touchés par la pandémie du VIH-SIDA. Le Fonds des Nations Unies pour la population présente les données suivantes, très inquiétantes. La moitié de toutes les nouvelles infections touche des jeunes de 15 à 24 ans. Environ 6 000 jeunes de par le monde entier deviennent infectés chaque jour par la maladie. C'est plus de 5 jeunes à chaque minute. Et nous savons qu'il est possible de prévenir le sida. Sachant cela, comment se fait-il qu'il y a plus de gens infectés? Le problème est aggravé par la pauvreté, le manque d'informations et de services de prévention. Les jeunes ont besoin d'informations pour prendre les bonnes décisions et les bons choix pour leur avenir. Les jeunes doivent comprendre que le sida est une maladie grave, c'est toujours une maladie mortelle. Ils ont besoin de services qui s'adressent à eux et qui les accueillent avec soutien. Ils doivent être aussi appuyés par leurs pères, leurs familles, leur communauté. Les jeunes du monde entier sont un groupe très diversifié, mais sont tous dynamiques, créatifs et ils peuvent s'adapter à peu près tout. Ce sont donc certaines des qualités dont nous avons besoin pour gagner la lutte contre le VIH-SIDA. Il est possible d'obtenir des résultats tangibles et durables, mais ils ne seront atteints que si les jeunes contribuent à l'élaboration de stratégies, de campagnes de sensibilisation et des projets que l'on doit réaliser. Donc les jeunes doivent s'insérer dans cette campagne à l'échelle mondiale. Ils doivent être consultés. Le Canada s'engage à jouer un rôle de chef de file dans la lutte contre le VIH-SIDA à l'échelle mondiale. Le leadership n'a pas de limite d'âge. Être jeune, ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas être un leader. Il faut donc écouter les jeunes et ce forum est l'endroit où cela peut se produire. Merci.
Thank you, Honorable Minister Werner, for.
Merci, Madame Werner, et c'est un honneur pour moi de présenter M. Julian Bond, président de l'Association nationale pour l'avancement des gens de couleur. Il a participé activement au mouvement en faveur des droits civils, justice, économique. Il a travaillé pendant 20 ans à l'Assemblée générale de la Géorgie. Il a été professeur d'université et participe au changement social depuis 60. Il a été étudiant au collège Morehouse et a été membre d'organisations luttant contre la ségrégation, fait partie du comité de coordination de la non-violence. Il a été réussi à remplacer ou défaire les démocrates. Monsieur Bond a été nommé vice-président, mais il a dû refuser ce poste parce qu'il était trop jeune. Il a été président d'un conseil de diversité, d'un conseil pour un monde meilleur. Il est commentateur de America's Black Forum. Depuis 1998, président du conseil de la NAACP, la plus ancienne organisation pour les droits civils des États-Unis, M. Bond.
Thank you.
Merci. Quand les jeunes se sont présentés un peu plus tôt, j'étais frappée par le fait que j'étais la personne la plus âgée sur ce podium. Et si je regarde l'auditoire qui est composé presque entièrement de jeunes, cela me rappelle mon père qui me disait, moi, quand j'avais ton âge, eh bien, je vais vous dire ce que j'ai fait quand justement j'avais votre âge. Je suis un enfant des années 60, cette époque où les jeunes, des jeunes comme vous, en Amérique, en Europe, en Asie, sont devenus une vraie force politique. Dans mon cas, il s'agissait du sud des États-Unis. Je vivais dans une société où régnait l'apartheid. Les jeunes, les blancs et les noirs étaient séparés par le droit, par la coutume, et les noirs n'avaient aucun droit, finalement. Mais je vivais aussi dans une communauté où les femmes, les organisations, les églises, les écoles s'étaient battues pendant des années contre l'injustice raciale. Mais au sein de cette communauté, c'était toujours les personnes plus âgées, les adultes en fait, qui menaient la lutte. Mais dans les années 60, une lutte a commencé dans le monde entier, parmi les jeunes, et je me suis retrouvée au plein milieu de cette lutte. J'étais étudiante d'université, j'étais un jour dans un café où l'on se rentrait entre les classes, et même parfois cela remplaçait les cours, et un jeune qui m'a montré un journal où l'on parlait d'une manifestation de sit-in pendant 3 jours. Il m'a demandé, c'était donc dans une autre ville, il m'a demandé si on ne devait pas le faire ici à Atlanta. J'ai dit, c'est sûr que quelqu'un va le faire. Et il m'a dit, pourquoi ne le ferions-nous pas? Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par nous? Et il a dit, prends ce côté du café, moi je vais prendre l'autre côté. Nous avons réuni d'autres étudiants, nous allons lancer le même genre de mouvement à Atlanta qu'à Greensboro, Atlanta. Et je me suis donc joint à ce mouvement comme des milliers d'autres jeunes noirs et blancs dans le sud des États-Unis. Et grâce à notre action, nous avons gagné certaines victoires. Et la lutte contre le VIH-SIDA est différente, peut-être, mais elle ressemble aussi à cette lutte des années 60. Elle est différente parce que ma génération faisait face à des lois raciales restrictives qui séparaient les races. Mais il n'y a pas de loi qui dit une telle personne aura le sida et l'autre non. Mais cette lutte ressemble beaucoup à la nôtre parce qu'à l'époque, il y avait des coutumes, des superstitions, des préjugés, de l'ignorance, comme maintenant. Et c'est à cause de ces choses que telle ou telle personne aura le virus, aura un traitement ou non, mourra ou non de la maladie. Ma génération s'est battue contre des lois injustes. Nous avons gagné beaucoup de victoires, mais nous ne les avons pas gagnées toutes. Et nous n'avons pas non plus gagné la bataille, la grande bataille contre l'ignorance. Et c'est là votre défi, et j'en reviens à ce que disait mon père, cette défi que vous devez relever. Nous avons fait face à des chiens de la police, à la matraque, à l'emprisonnement, mais vous faites face à un mal encore plus grand, les préjugés, l'ignorance et d'abord et avant tout l'absence de volonté. Je viens d'un des pays qui mène le monde pour ce qui est de la contribution d'un fonds de ressources contre VIH-SIDA. Mais ce même pays n'offre pas le traitement requis à sa propre population, l'accès aux médicaments. Et la raison pour laquelle cette conférence a lieu au Canada, c'est parce que mon pays a adopté des lois contre l'admission de personnes vivant avec le SIDA qui viennent aux États-Unis. Voilà pourquoi la conférence a décidé de ne plus se réunir aux États-Unis. Dans le passé, ma génération, donc comme votre génération, dispose d'une arme très efficace. La vérité est de votre côté et comme nous, vous êtes absolument convaincus que votre cause est juste. Partout dans le monde, nous voyons des défis qui se posent à la nouvelle génération. Et mon organisation, l'Association nationale pour l'avancement de gens de couleur, composée de gens de toutes les races, de tous les âges, et je demanderai à notre directeur de la santé. Donc c'est une jeune, Maïcha, vous voyez donc que nous n'avons pas tous des cheveux gris. C'est une jeune comme vous. Et mon organisation fait ce qu'elle peut grâce au militantisme, le plaidoyer, l'éducation et tente par tous les moyens de lutter contre cette terrible maladie, mais ce n'est pas suffisant. Je vous remercie donc de votre engagement. Nous dépendons de votre action et nous assurer que dans 25 ans, vos enfants ne seront pas assis à votre place et continuer de mener une lutte que vous n'aurez pas gagnée. Merci.
Thank you.
Merci beaucoup, Monsieur Bond, de vous être joint à nous. Malheureusement, Monsieur Bond doit nous quitter. Il a un autre engagement ailleurs, mais nous souhaitons le remercier d'être venu nous parler de la participation des jeunes sur la scène politique. Malheureusement, il doit nous quitter. Je vais maintenant présenter les autres leaders mondiaux. Tout d'abord, l'honorable Dr. Frank, ministre de la Santé du Mexique. Il est ministre de la Santé au Mexique. Il occupe ce poste depuis décembre 2000. Pendant cette période, il a dirigé la mise en œuvre d'un plan d'action novateur afin de promouvoir l'équité, la qualité, la protection sociale pour tous. Outre le renforcement des programmes de santé publique, il a mené une réforme ambitieuse pour offrir une assurance maladie universelle. Cette initiative a permis d'accroître l'accès aux soins de qualité, protection financière pour 50 millions de Mexicains, la plupart d'entre eux pauvres, qui auparavant ne disposaient pas d'assurance sociale. Avant d'occuper son poste actuel, le Dr. Frank a été directeur exécutif, chargé de l'information l'OMS à Genève, en Suisse. Il a été aussi vice-président exécutif de la Fondation de santé du Mexique, directeur de la santé du Centre pour la santé et l'économie et directeur général fondateur de l'Institut national pour la santé publique du Mexique. Outre ses postes de direction, Dr. Frank a eu une longue carrière dans le domaine de la recherche, de l'enseignement. Il a écrit deux romans pour les jeunes, en fait, qui expliquaient le fonctionnement du corps humain. Il s'est concentré sur les systèmes de santé publique. Il a aussi travaillé sur la relation entre la mondialisation et la santé. Et il a acquis beaucoup d'expérience au cours de sa carrière. Il a eu des postes de direction dans le domaine de la recherche, l'enseignement, analyse de politique, renforcement des institutions, coopération nationale, internationale et fonction publique nationale.
Buenos días a todas y a todos.
Alors à tout le monde, bonjour.
Canada. Thank you. Thank you all for this opportunity.
Merci à tous et à toutes de m'avoir donné cette occasion d'agir et d'interagir avec vous tous et toutes les jeunes qui sont l'avenir de ce monde et qui seront responsables de faire face à ce défi le plus considérable de notre époque. Je voudrais vous parler un peu de l'expérience dans mon pays en ce qui concerne la lutte contre le VIH-SIDA et ainsi que le rôle joué par les jeunes leaders. Mon message principal, c'est que les jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans cette tentative de ralentir et d'éventuellement étouffer cette pandémie. Vous êtes l'avenir et vous êtes les responsables de l'action à l'avenir. Comment devons-nous nous y prendre? Il me semble qu'il nous faut une stratégie globale pour lutter contre les VIH-SIDA et que cette stratégie doit être fondée sur ces piliers suivants. D'abord, la prévention. Ensuite, l'accès universel à des soins complets, y compris la thérapie rétrovirale. Et troisième pilier, éliminer ce stigmate, cette fausse impression que l'on a devant cette maladie parmi le grand public. Surtout pour les jeunes et les jeunes adultes, vous nous donnez cette fenêtre extraordinaire que nous devons utiliser pour passer au pas suivant. Bien des jeunes, aujourd'hui, malheureusement, sous-estiment le risque d'infection et sont exposés ou s'exposent eux-mêmes à un certain nombre de facteurs de risque qui peuvent mener à une infection VIH-SIDA. Ceci peut être fait par le biais de l'abus de stupéfiants, par des choix de santé mal fondés, par des choix concernant la protection dans des relations sexuelles. Je vais vous parler surtout d'une base essentielle d'éducation qui est celle de l'éducation sexuelle. Une bonne éducation sexuelle doit se concentrer sur trois objectifs. D'abord, prévenir contre les maladies sexuellement transmises, y compris le VIH-SIDA. Deuxièmement, pour prévenir contre des grossesses involontaires, ce qui est un des grands problèmes dans tous les pays du monde, ou quasiment dans tous les pays du monde. Troisièmement, à part la prévention contre la transmission et par la prévention contre les grossesses non voulues, il faut aussi une approche complète et bien réfléchie sur la transmission de l'information. L'information non seulement en ce qui concerne les faits, les données, mais aussi l'information en ce qui concerne un comportement sain qui permet de lutter contre l'infection. Ceci peut être une stratégie qui sera un instrument majeur pour lutter contre les préjugés, l'intolérance et la violence éventuellement et la discrimination sexuelle. J'aimerais beaucoup connaître vos points de vue sur cet aspect particulier de l'éducation sexuelle. Dans mon propre pays, au Mexique, nous avons travaillé de très près l'un avec l'autre, les ministres de la Santé et de l'Éducation ainsi que les organisations de la société civile pour promouvoir un programme de haut profil destiné aux élèves de secondaire concernant les questions de santé et de prévention contre les maladies sexuellement transmises. On sait que c'est une question qui est délicate
au point de vue social, et ceci est le cas dans bien des sociétés. Cependant, si on l'approche de la bonne façon, surtout fondée sur des principes de droits de la personne, des droits fondamentaux, respect, élimination de préjugés ou de discrimination, je pense qu'on peut arriver à notre objectif. C'est une question d'influencer le comportement et l'attitude des gens. Je répète aussi qu'il est important et même essentiel d'impliquer les jeunes leaders dans la conception, l'élaboration de politiques qui vont les affecter eux le plus. Le Mexique a fait face à ce défi avec enthousiasme et nous avons déjà commencé à mettre en place des programmes d'intervention et de prévention pour communiquer le message aux jeunes. Les capacités, les habiletés par le biais de l'éducation, de la compréhension et de la tolérance. Nous croyons que la formation de groupes de soutien mutuel est très utile pour permettre la transmission de ces messages parmi les jeunes. Vous savez que dans quelques années, le Mexique sera hôte de la prochaine grande conférence internationale sur le VIH-SIDA. Dès maintenant, je voudrais donc faire de vous lancer un plaidoyer ici, de vous enjoindre à doubler le nombre de participants par rapport à ce que nous avons à Toronto. Ça a déjà été fait ici à Toronto par rapport à la conférence précédente. Alors maintenant, faisons-le de nouveau. Doublons le nombre de participants à Mexico la prochaine fois. Okay, en vous disant que vous, les jeunes, vous êtes non seulement l'avenir, mais vous êtes déjà le présent dans cette lutte commune. Merci beaucoup. Merci au Dr Julio Frenk. Maintenant, nous entendrons Son Excellence Xiomara Castro de Celaya, Première Dame de Honduras. Elle est née à Olancho, en Honduras. C'est la Première Dame de Honduras depuis que son mari est élu 27 janvier 2006, depuis le début de son poste de Première Dame. Son titre de première dame, elle a concentré tout son travail sur la promotion d'actions stratégiques orientées vers le renforcement de la réaction nationale au VIH-SIDA, y compris l'accès universel à la prévention, au traitement et aux soins, avec un accent tout particulier sur les femmes et les jeunes. En juin 2006, Mme Celaya a été à la tête de la création d'une coalition des premières dames et des femmes leaders de l'Amérique latine pour rendre encore plus visible la vulnérabilité des femmes devant cette épidémie. Elle a été une des chefs de file du monde qui a participé activement à la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH-SIDA à New York au mois de juin 2006. Sous son leadership, l'Institut national de la jeunesse a été mis sur pied. C'est la première fois qu'un tel institut existe dans l'histoire du pays, du Honduras. Cet institut de la jeunesse a été créé comme témoignage de la part des gouvernements pour montrer leur désir d'augmenter leurs investissements pour la sensibilisation des jeunes. Bonjour tout le monde. Avant tout, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont donné cette occasion de participer à ce forum des jeunes. Et j'aimerais féliciter et remercier les organisateurs et organisatrices pour cette initiative. Initiative dans laquelle non seulement nous pouvons partager nos idées, mais encore plus important, il s'agit là d'une tribune qui va nous permettre de poser des engagements pour entreprendre des actions concrètes en vue de rendre le monde de l'avenir un monde un peu plus juste pour les générations déjà nées et les générations futures. Ce sont vous, les jeunes, qui sont le plus grand espoir de l'humanité dans cette lutte contre le VIH-SIDA. Dans mon pays, au Honduras, 64% de la population est âgée de moins de 29 ans. Notre pays est un pays peuplé par des jeunes. Les jeunes qui sont les plus vulnérables devant cette épidémie. La pauvreté, l'inégalité entre les sexes, la violence, le chômage, cette discrimination, ce stigmate socio-culturel, les attitudes du public ne font qu'aggraver déjà la tragédie qui existe dans les foyers ou à l'intérieur de l'individu même. Et ceci ne fait qu'aggraver la situation dans mon pays où, comme je vous dis, qui est peuplé par des jeunes. Mais ceci est également le cas dans le reste du monde. Il faut mettre en relief le fait que les jeunes femmes et les jeunes filles sont doublement vulnérables. En plus de tout ce que je vous ai dit, il y a un accès très limité à l'éducation ou aux services communautaires, à l'éducation sexuelle, à l'éducation sur l'espacement des naissances. Et tout cela peut aggraver la transmission de la maladie et les infections. Il nous faut absolument saisir l'occasion qui existe pour leur montrer d'abord comment résoudre certains problèmes communautaires, certains problèmes familiaux, certains problèmes personnels, essayer de reprendre confiance en eux-mêmes et de leur donner la force de prendre des décisions qui vont les aider à lutter contre cette épidémie. En tant que première dame de mon pays, j'ai accepté cette responsabilité, j'ai embrassé même cette responsabilité de protéger nos jeunes grâce à la transmission de l'information, à des prises de décision et au développement de la conscience humaine. Nous faisons un grand effort à l'heure actuelle pour protéger une culture sociale fondée sur la solidarité. Nous luttons de plein fouet à cette situation qui veut que la vulnérabilité des jeunes et surtout des jeunes femmes et jeunes filles les rende incapables de participer à cette lutte. La prévention contre le VIH-SIDA doit être efficace et pour cela, les jeunes doivent participer activement à l'élaboration des politiques et à la mise en œuvre de décisions et d'initiatives. Dans mon pays, au niveau ministériel, nous avons participé à cet effort en créant cet Institut national de la jeunesse comme tribune pour permettre aux jeunes de participer dans des décisions au niveau politique, surtout en ce qui concerne les questions qui touchent les jeunes. Nous croyons que pour encourager la participation active de la citoyenneté à défendre ses propres droits, et nous croyons aussi dans leur rôle d'encourager les jeunes à devenir des protagonistes pour lutter contre ce fléau et pour aider le gouvernement à prendre des décisions. Parce que sinon, nous n'allons pas arriver à des résultats. Il nous faut compter davantage sur l'énergie, la sagesse et la bonne volonté de nos jeunes. Sinon, nous resterons un pays sans avenir, sans espoir. Au nom de mon pays, en mon propre nom, j'enjoins tous les participants ici à adopter un engagement politique pour adopter ces stratégies permettant d'avoir accès à des ressources humaines et monétaires pour lutter de façon efficace contre cette épidémie. Je lance cette exhortation auprès des pays, des États, pour qu'ils adoptent des politiques publiques pour répondre réagir aux conséquences sociales de ce problème qui touche toute l'humanité. Je présente ici un appel, je lance un appel à tous les adultes de toutes les régions du monde pour qu'ils puissent montrer leur bonne volonté pour faire face à des décisions difficiles mais qui sont nécessaires pour passer ce point tournant important qui nous permettra ensuite de lutter et de vaincre le VIH-SIDA et d'agir non seulement de façon secrète ou avec honte, mais plutôt de façon ouverte. Parce que nous savons que c'est un objectif extrêmement ambitieux et difficile, mais nous n'avons pas le choix. Il faut agir maintenant ou c'est jamais. Maintenant ou jamais. Pour nos jeunes, avec nos jeunes. Vous, les jeunes, vous êtes le talent, l'énergie, la force motrice qui doit pousser de l'avant les changements par rapport au présent et qui tracera le chemin de demain, libre de toute discrimination, libre de la haine des autres et ouvrir un chemin tout grand pour vaincre le VIH-SIDA. Merci. Merci, Excellence. Madame de Honduras. Maintenant, Dr. Peter Piot, directeur général du programme des Nations Unies de lutte contre le VIH-Sida, l'UNAIDS, et sous-secrétaire général des Nations Unies, l'ONU-Sida. Et il a, évidemment, Dr. Piot est une personne qui, de son propre chef, a atteint une excellente réputation comme scientifique, comme gestionnaire. Dans le monde universitaire et scientifique, il a vraiment lancé un grand défi aux chefs d'État du monde entier en ce qui concerne la vision sur la lutte contre le sida et a participé aussi à un grand nombre de recommandations qui ont mené à l'adoption de nouvelles stratégies sociales et économiques. Sous sa direction, ONU-SIDA est devenu le défenseur principal de l'action mondiale contre le SIDA. Le projet SIDA au Kinshasa, par exemple, ainsi que d'autres projets en Afrique tels qu'au Burundi, Côte d'Ivoire, Kenya, Tanzanie et Zaïre. Il a été professeur de microbiologie, de santé publique et a travaillé aussi au sein de l'OMS. Merci, Dr. Piot.
Thank you very much and,
merci beaucoup et bonjour tout le monde. Cette conférence a lieu dans une année cruciale dans l'histoire du sida. C'est encore une histoire assez jeune, elle n'a que 25 ans. Mais le sida atteint l'âge de maturité, dit-on. On dit que l'âge de 25 ans est censé être un âge d'adulte, alors le sida atteint sa statut d'adulte. Mais dans ces 25 années, nous avons fait face à plusieurs défis. Maintenant, nous nous trouvons au point où nous sommes devant une question qui a la même importance que les questions de l'environnement, de la pauvreté dans le monde, le réchauffement de la planète, etc. Alors, et cela exige une réaction en profondeur et immédiate. Nous savons que sinon, la situation ne peut que s'aggraver. Alors, c'est maintenant ou jamais. Nous sommes à un point tournant. Et cette conférence a également lieu dans l'année où les attitudes également ont beaucoup changé. L'année dernière, nous avons présenté un rapport, comme on fait traditionnellement au sein de l'ONU-SIDA. Et pour la première fois depuis que j'occupe ce poste, on peut démontrer maintenant qu'il y a vraiment eu des résultats très prometteurs dans cette lutte contre le sida. Nous voyons de plus en plus de pays dans toutes les régions, à peu près, sauf peut-être dans l'Asie centrale et l'Europe de l'Est. Mais nous voyons de plus en plus de pays maintenant où la courbe commence à baisser. Il y a maintenant chaque année de moins en moins de gens qui sont infectés. Et ça surtout chez les jeunes. Les jeunes que nous, les adultes, décrivions comme étant des personnes irresponsables. Eh bien, là, le travail maintenant, le défi le plus grand, c'est de faire en sorte que les hommes plus âgés changent leur attitude. Ce n'est plus un problème de convaincre les jeunes, parce qu'on a vu que les jeunes, maintenant, ont réagi. C'est un début d'espoir de succès, mais il y a des écueils. N'oublions pas aussi que 50% de toutes les nouvelles infections à l'heure actuelle ont lieu parmi les jeunes. Et quand nous allons dans certains pays, comme certains pays du centre de l'Asie ou de l'Europe de l'Est, ça peut même atteindre 60%. Il y a eu beaucoup de progrès dans les interventions scientifiques avec procédures rétrovirales. Les membres et collègues dans ce panel savent. On peut dire par exemple que maintenant, chez les jeunes au Mexique, on a accès universel aux thérapies antirétrovirales et 1,5 million de personnes maintenant dans les pays pauvres ont la possibilité, ont accès et prennent des thérapies ou suivent des thérapies antirétrovirales. Alors, la stratégie peut changer un peu maintenant dans notre lutte. Jusqu'à maintenant, nous avons été plutôt réactifs. Ça a été plutôt une question de gérer des crises, parfois de façon assez aléatoire. Mais maintenant, il nous faut commencer à inclure des perspectives à long terme si on veut assurer la durabilité de nos initiatives. Alors, cet après-midi, dans la séance d'ouverture, le titre de mon discours sera les prochaines 25 années, les 25 années à venir, parce que c'est ce qu'il faudra, au moins une autre génération, pour que cette épidémie soit vraiment pleinement contrôlée. Toute personne qui vous dit qu'on peut déjà entrevoir le succès à l'horizon, eh bien je pense qu'ils ne se rendent pas compte de l'envergure du défi auquel nous devons faire face maintenant. J'espère sincèrement donc que cette conférence se concentrera sur cette question de approche à plus long terme, de la durabilité de nos initiatives, parce que c'est à vous qu'appartiendront ces 25 prochaines années. Cela concerne la prochaine génération, et ceux qui sont nés récemment ou qui vont naître et qui vivent dans un monde déjà où sévit le VIH-SIDA à grande échelle. Alors, ça veut dire que non seulement nous faut-il maintenir cet élan politique qui est déjà en place. Soyons clairs, sans un bon leadership politique, ce sera difficile de réussir. J'aimerais d'ailleurs féliciter la Première Dame du Honduras pour son travail, parce que c'est ce genre de leadership qui va permettre de faire la différence. Grâce au leadership. Et aussi, c'est pas seulement entre pairs chez les jeunes, parce qu'on sait que les jeunes sont très influencés souvent ou influencent leurs pairs, mais c'est aussi parmi les chefs d'État, parmi les chefs d'église, parmi les professeurs et les grands penseurs, parce que c'est là où il faut vraiment faire pression. Il faut maintenir la durabilité de l'engagement, parce qu'on sait que de façon générale, il y a des modes, hein, on ne reste pas très fidèle à une cause pendant très longtemps. Alors, mais pour le sida, il va falloir peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour le vaincre, à moins qu'il y ait vraiment, par miracle, un médicament miracle, qui veut dire que on pourrait alors cesser les divers traitements qui existent, les autres traitements qui existent, mais ceci n'est pas encore le cas. Alors il faudra une action très concertée, très forte et très convaincante de la part des jeunes, parce que c'est vous qui allez être la clé de l'avenir. Ça concerne votre génération, ça concerne aussi peut-être la fin de ma génération. Deuxièmement, il faut nous assurer que la prévention contre le VIH-SIDA redevienne une priorité. Pendant bien des années, les gouvernements et les ONG disaient que la prévention n'est utile que pour ceux qui ne sont pas déjà infectés. Maintenant, ça fait partie aussi des stratégies de traitement. Et si on veut faire des progrès dans les traitements, il ne faut pas pour autant laisser tomber les campagnes de prévention. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que il nous faut souvent et toujours faire face à des réalités parfois très désagréables, parfois très gênantes. Parce qu'il nous faut aller au fond existentiel, si vous voulez, de notre vie. Au fond de soi-même. Et ceci est quelque chose qu'il faut que les jeunes fassent également. Vous pouvez éviter de commettre les mêmes erreurs que nous avons commises. Et vous pouvez vous assurer que vous serez la première génération, du 21e siècle, qui sera la génération humaine de l'avenir à vivre sans le virus. Bien sûr qu'on a besoin de l'aide aussi des scientifiques, de la technologie, on a besoin des médicaments, on a besoin de protocoles, de traitements, on a besoin de découvrir de nouveaux microbicides, mais ça n'est qu'un aspect. L'autre aspect, c'est l'éducation sociale, c'est d'entraîner un changement d'attitude, changement social, comme la discrimination contre les femmes, par exemple. On a entendu dire par la première dame du Honduras, Madame Castro, l'homophobie, les attitudes, fausses attitudes, les inégalités, la violence, les injustices. en termes économiques et sociaux, si vous n'y faites pas face également, je pense que nous n'aurons aucune chance de freiner cette épidémie, de l'arrêter. Alors il nous faut un programme extrêmement ambitieux et très courageux pour vaincre cette épidémie. Comment pouvons-nous arriver au moment où nous aurons des générations entièrement libres de VIH-SIDA? Il nous faut beaucoup de partenariats et il faut de la coopération, il faut de l'activisme. Mais il faut un bon équilibre entre le partenariat et l'activisme. Un partenariat n'est pas là spontanément. Il n'est créé qu'à la suite de luttes sociales acharnées. Et c'est pourquoi je dis que vous, les jeunes, vous pouvez jouer un rôle clé. Une partie de ma demande ici, c'est que lorsque les décisions sont prises concernant les jeunes, il faut que les jeunes soient à la table. Il faut que les places soient libérées pour eux. Et j'ai été encouragée par ce qu'a dit le docteur Frank du Mexique. Mais dans le monde entier, je peux vous dire que c'est très rare qu'on invite les jeunes à participer aux discussions et aux décisions à la table. On dit des premiers paragraphes qui, dans des grandes déclarations, sont les jeunes et qui parlent des jeunes. Les jeunes sont les plus vulnérables, etc. Après cela, le premier paragraphe, après cela, on ne parle plus d'eux. Ça ne peut pas fonctionner comme cela. Alors, il faut que les jeunes participent. Il faut qu'ils nous aident à déterminer est-ce que telle ou telle initiative est bonne pour les jeunes, est-ce que ça va être utile pour les jeunes, est-ce que ça va avoir une influence, est-ce que ça va changer les choses dans le mode de vie des jeunes, est-ce que ça va les encourager à devenir des chefs de file, des leaders. Il nous faut établir ce lien avec les jeunes. Et troisièmement, il faut aussi aller attaquer de plein fouet tout ce qui est violence, injustice sociale, abus, tout ce qui est comportement social découlant de cette attitude, de ces attitudes et de ces préjugés. Il faut mettre fin à la violence. Et ça, ce n'est pas nécessairement les jeunes qui peuvent le faire, parce que ce sont les personnes plus âgées qui sont les plus coupables dans ce sens-là. C'est eux qu'il faut viser. Alors l'avenir de la lutte contre cette épidémie est entre nos mains. Surtout les hommes et les jeunes hommes, que ce soit pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes ou que ce soit les hommes qui ont des relations sexuelles avec des femmes. Nous ne pouvons pas nous cacher de notre responsabilité. C'est nous qui plaçons les partenaires sexuels dans des situations de risque. Alors c'est nous qui devons prendre cette responsabilité et de l'assumer pleinement. Donc c'est une question non seulement de découverte scientifique ou de décision politique, mais c'est aussi une question de changement social. Voilà ce que je mentionne quand je rencontre d'autres leaders. Assez souvent, ils me disent que c'est la première fois qu'on leur parle aussi directement de ce genre de défi, qu'on leur demande de participer comme cela. Mais c'est notre rôle, que ce soit dans le cadre des Nations Unies ou ailleurs. Chaque organisation a son rôle à jouer. Ce n'est pas un programme qui relève d'une seule organisation ou agence. C'est une responsabilité qui appartient à tout le monde. Et voilà pourquoi nous devons travailler ensemble. Voilà pourquoi vous, les jeunes, devez continuer à relever ces défis. Et chaque fois qu'il y a des événements mondiaux, internationaux ou même nationaux, il faut que vous soyez à la table. Merci de m'avoir écouté.
Thank you, Dr. Piot.
Merci, Dr. Peter Piot. Maintenant, nous commencerons la discussion avec les jeunes. On va commencer avec Maris Pérez du Salvador. Vous avez le microphone, pardon. Damaris Pérez. Pendant la préconférence, nous, les jeunes, avons identifié le fait que l'accès à l'éducation complète, éducation sur sexualité et sur la reproduction, a un rôle important à jouer à l'intérieur des stratégies et des initiatives qui sont prises soit par le niveau politique ou même dans le grand public. C'est crucial, c'est crucial et essentiel pour réduire la propagation du VIH-Sida. Ça, je suis du même avis que Dr. Julio Frank. Au niveau financier et politique, pour les engagements, pour atteindre une époque où cette crise sera reconnue comme priorité et pour permettre aux jeunes de réaliser des progrès importants avant même que la prochaine conférence ait lieu à Mexico en 2008.
Merci beaucoup pour cette question, Damaris. Je suis tout à fait du même avis que toi. Et en ce qui concerne ce que j'avais dit au début de ma présentation, il est absolument essentiel d'impliquer les jeunes dans les discussions, prises de décision, et aussi d'éduquer les jeunes sur la prévention contre la propagation de la maladie. Voilà parmi les nombreux défis que nous avons à relever, un des objectifs qu'il est déjà dès maintenant possible d'atteindre, non seulement dans le contexte scolaire, mais aussi dans le contexte intégral de l'être humain et de la famille. Changer les attitudes, inculquer de nouvelles connaissances, changeant ainsi la discrimination, la tendance à la violence. Voilà comment l'État peut aussi jouer un rôle pour promouvoir de tels programmes. Je suis enchantée d'apprendre que pendant la période pré-conférence, les jeunes ont pu se consulter et identifier ceci comme priorité. Et comme le disait le docteur Pio, l'accès universel au traitement et les programmes de prévention sont absolument fondamentaux. C'est vraiment une question de droit de la personne fondamentaux. Mais aussi, il nous faut ajouter un élément de synergie entre les diverses initiatives. Une politique intégrale qui doit être équilibrée, qui doit être fondée sur ces trois piliers que j'avais mentionnés, les trois piliers qui se renforcent les uns les autres. L'éducation sexuelle dès le jeune âge, basée sur des faits scientifiques, fondée sur des principes de droits humains, de droits de la personne, de progrès social. Et je peux vous dire que ça aura une place prioritaire dans la conférence de 2008 à Mexico. En tant que Mexicain, comment, Ricardo, pourrais-tu répondre à l'intervention et la réponse du Dr. Frank? Pardon, je reconnais, et d'ailleurs je félicite le Dr. Julio Frank pour son discours et ce qu'il vient de nous dire. Nous avons beaucoup de programmes en domaine de santé sociale, santé publique et surtout de santé sur l'éducation sexuelle et sur la reproduction. Et toute cette éducation sexuelle est particulièrement importante, bien sûr, mais pour répéter un peu ce que disait la jeune personne qui a posé la question en premier, croyez-vous qu'il existe vraiment un engagement de la part des gouvernements, des divers ministres, pour que les rencontres de haut niveau, comme celle d'aujourd'hui, puissent se mener à des prises de décision? Parce que non seulement demandons-nous de l'aide financière, parce que ça, évidemment, c'est important que nous ayons les ressources nécessaires pour nous permettre de mener à bien des stratégies axées sur les jeunes, mais est-ce qu'il existe aussi cet engagement politique? J'aimerais d'ailleurs en profiter pour vous remercier de votre propre engagement en ce qui concerne l'accent sur les jeunes lors de la prochaine conférence VIH-SIDA en 2008 à Mexico.
Très difficile de généraliser à l'égard de cet engagement politique. Cela varie beaucoup d'un pays à l'autre, mais je suis convaincue qu'il ne s'agit pas de céder quelque chose aux jeunes, tout simplement. Il faut que les jeunes se fassent leur propre place, s'organisent et participent. Au Mexique, nous avons modifié la structure du Conseil national pour la prévention et la lutte contre le VIH-Sida afin d'y inclure les organisations de la société civile à titre de membres de plein droit et non seulement, seulement à titre d'observateurs. Donc ils ont aussi le droit de vote et parmi ces ONG, il y a une ONG de jeunes. Et cela a été le résultat de l'action de ces ONG, donc des organisations comme la tienne ont pris leur place grâce à cette lutte et c'est ainsi que les organisations société civile auront voix au chapitre. Au gouvernement, les membres de gouvernement changent. Ce qui reste, ce qui est permanent, ce sont les organisations de la société civile. Voilà pourquoi les gouvernements se doivent d'écouter les membres de la société civile et répondre à leurs attentes. Donc, vous obtiendrez votre place en agissant en ce sens et les gouvernements doivent réagir en affectant les budgets nécessaires aux priorités qui ont été décidées par les organisations de jeunes elles-mêmes. Nous avons maintenant une question à l'intention de la première dame du Honduras. Votre Excellence, à l'heure actuelle, plus de 6 000 jeunes par année sont affectés. Plus de 50% sont des femmes et des fillettes. Aucune n'a été guérie jusqu'à maintenant. En tant que femme, en tant que leader, comment entrevoyez-vous l'avenir des femmes et des jeunes filles et comment allez-vous contribuer à une plus grande participation des femmes afin qu'elles deviennent moins vulnérables. Je vais faire la traduction parce qu'il y a un petit problème. Chaque jour, plus de presque 6 000 jeunes sont infectés. Là, plus de la moitié sont des jeunes et des filles, des fillettes. Aucune n'a été guérie jusqu'à maintenant. Et comment voyez-vous l'avenir des femmes et comment pouvez-vous vous-même avoir une influence sur les politiques mises en place afin que les femmes et les jeunes filles soient moins vulnérables. Merci. Permettez-moi de dire que plus de 51% des personnes infectées dans mon pays sont des femmes, justement. Et nous sommes frappés par le fait que notre participation et ma participation en tant que première dame doit être beaucoup plus efficace. Et dans mon pays, nous sommes beaucoup plus ouverts à cet égard pour rendre visible ce problème qui touche non seulement le Honduras, mais tous les pays du monde. Et ainsi, grâce à cette ouverture, nous avons pu mettre sur pied une coalition de premières dames et de leaders femmes à l'échelle de l'Amérique latine. Il est très important que les femmes participent au niveau politique. Il faut que l'on débatte de cette question, que l'on envisage des mesures immédiate de protection, de prévention qui touche tout particulièrement les femmes, les jeunes filles, mais aussi les jeunes. Ainsi, cela permet de travailler à la recherche de solutions non seulement au sein de mon pays, mais aussi à l'échelle de l'Amérique latine. Nous invitons donc les premières dames, les leaders femmes d'Amérique latine à la prochaine réunion qui aura lieu au Panama, justement pour avoir non seulement un débat, non seulement s'écouter les uns les autres, mais il faut aussi passer à l'action parce que c'est cela qui manque. Il faut que nous fassions des propositions, que nous soyons plus active dans la recherche c'est peut-être un peu fort, mais je dirais chercher à éradiquer le sida dans nos pays. Et je pense pour ma part que c'est possible, mais il faut multiplier nos efforts, joindre nos efforts, et c'est ce que nous cherchons à faire avec la création de cette coalition de femmes en Amérique latine. Merci. Keisha de la Jamaïque, y a-t-il autre chose qu'on doit avoir à l'esprit pour ce qui est de la vulnérabilité des jeunes femmes? Avant de réagir, je saisis l'occasion pour vous féliciter d'avoir fait cette déclaration très forte. Les jeunes sont le plus grand espoir de l'humanité pour ce qui est de la lutte contre le VIH-SIDA. Fin de la citation. Jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas de vaccin contre le VIH-SIDA et il n'y en a pas qui se profile à l'horizon immédiat. Mais il y a des essais qui sont faits sur la mise au point de technologies de prévention comme les microbicides. J'aurai la question suivante. Dans quelle mesure êtes-vous disposé à appuyer la recherche pour des nouvelles technologies qui vont réduire ou éliminer la transmission des maladies sexuellement transmissibles et le VIH-SIDA chez les jeunes femmes? Est-ce que fonctionne la traduction vers l'espagnol? Tout d'abord, l'intervenante vous a félicité pour votre travail. Elle a indiqué qu'il n'y avait pas encore de vaccin contre le VIH-SIDA. Ça ne se profile pas non plus à l'horizon. Mais il y a des discussions en ce qui concerne les microbicides, par exemple. Il y a de la recherche. Dans quelle mesure êtes-vous disposé à appuyer ces recherches en vue de réduire, éliminer peut-être même la transmission du VIH-SIDA chez les jeunes femmes? Notre position consiste à appuyer pleinement ce genre de recherche. Ce que nous vivons, comme bien d'autres pays latino-américains, c'est que les thérapies antirétrovirales coûtent très cher pour nos pays en voie de développement. Nous avons constaté que malgré les efforts déployés par mon gouvernement dans mon pays pour parvenir à acquérir ces médicaments, nous n'avons même pas réussi à répondre aux besoins qui existent chez nous. À peine 58% des personnes infectées sont traitées dans mon pays et le besoin est donc très grand. Il faut donc, encore une fois, conjuguer nos efforts, surtout au niveau régional, adopter des politiques qui permettent d'accroître l'accès à ces thérapies parce que la majorité des personnes séropositives vivent dans une pauvreté extrême et ces personnes ne peuvent absolument pas se permettre d'acheter ces médicaments très chers. Il faut donc, par tous les moyens, permettre la mise en place de mécanismes pour contribuer à l'élimination de cette maladie et nous offrons notre soutien à toute initiative du genre. Merci. Docteur Piot, il y a une question à votre intention. Sophie du Bénin a une question à votre intention.
Merci. Je remercie encore une fois les leaders, particulièrement le docteur Peter, d'avoir accepté d'écouter ma question. En réalité, nous savons que la discrimination, la stigmatisation sont des réalités pour les jeunes vivant avec le virus et surtout ceux qui sont à risque, les jeunes à risque comme ceux qui pratiquent l'homosexuel, les travailleuses de sexe et les utilisateurs de drogue. Nous sommes tous conscients que les condoms, l'accès au traitement lié à l'injection intraveineuse sont tous liés à la discrimination. En fait, en tant que docteur, en tant que décideur, en tant que leader, que faites-vous pour vous assurer que les jeunes gens de part du monde entier aient accès au traitement, au condom et surtout à leur utilisation sécurisée? Je vous remercie.
Merci Sophie. Et bon, la question est vraiment tout droit au cœur des problèmes de la lutte contre le SIDA. Et parce que c'est vraiment d'un côté de lutter contre la discrimination, la stigmatisation, qui, comme je l'ai dit, sont vraiment à la base de cette épidémie, et aussi rendre le travail de prévention et d'accès au traitement extrêmement difficile. Et deuxièmement, c'est comment toucher les populations les plus à risque. Qu'est-ce que nous faisons? Tout d'abord, je peux vous assurer que personnellement, quand je rencontre des leaders de n'importe quel pays, que je mets cette question assez difficile sur la table pour qu'il y ait une conscientisation de l'importance de cet accès aux médicaments, accès aux préservatifs, accès aux seringues. Par exemple, quand je prends le nord-est de l'Inde, l'épidémie est surtout une épidémie parmi des usagers de drogue, surtout des jeunes. Quand je prends l'Europe de l'Est, l'Asie centrale, c'est aussi une question de drogue, de toxicomanie. Deuxièmement, à l'ONU-SIDA, la consigne pour tous nos bureaux est de créer et d'offrir un espace sécur et sûr pour les jeunes, pour les personnes vivant avec le VIH. Et je crois que Frika de l'Indonésie, qui est là, elle peut témoigner que notre bureau à Jakarta, comme le bureau à Bangladesh par exemple, est un lieu où les jeunes vivant avec le VIH peuvent se rencontrer, discuter et planifier leur action. Aussi un appui au réseau des jeunes qui vivent avec le VIH. Parce que même là, dans les pays où existent des réseaux de personnes vivant avec le VIH, souvent les jeunes ne sont pas là autour de la table. Donc il faut des efforts très spécifiques. Et puis, pour être très spécifique, la question de l'accès aux préservatifs, là, notre coparrainant, le FNUAP, le UNFPA, a ça comme vraiment une de ses toutes grandes priorités pour assurer cet accès. Je devrais dire aussi que pour la question de la discrimination, à mon avis, il ne suffit pas de faire des grands tableaux et pour dire que il ne faut pas discriminer. Non, il faut utiliser les médiums qui s'adressent aux jeunes. Et ça, c'est la musique et c'est le sport. C'est pour ça que, pour moi, notre partenariat le plus spectaculaire, c'est le partenariat de l'ONU-SIDA avec MTV, avec le programme Staying Alive, où 1 milliard de jeunes sont atteints, pas encore en Afrique, je dois dire, avec des messages qui vont contre la discrimination, la stigmatisation. Et je crois que ça, c'est le genre d'action qui pourrait être fait par d'autres télévisions, par d'autres radios, un peu partout dans le monde. Merci.
Thank you, Dr. Piot. Caitlin.
Merci. Caitlin, du Canada. Que voudriez-vous ajouter à cette perspective? Merci beaucoup. Nous voulions aussi vous remercier de la réception qui a été donnée à l'intention des jeunes hier soir et Vous avez très bien parlé. J'ai été encouragée de vous entendre parler de préservatifs, de seringues et choses du genre, parce qu'en tant que jeune, on entend beaucoup de rhétorique, on essaie de lire les déclarations internationales, les documents, mais ça ne nous parle pas beaucoup, ce n'est pas la langue qu'on parle. Vous avez fait une allocution très intéressante, mais vous n'avez pas parlé de seringues, de préservatifs, des choses qui nous intéressent et qui finalement traduisent mieux la vérité vécue par les jeunes. Il faut donc, je pense, faire un effort pour parler notre langue. Je sais que nous manquons de temps. Je ne sais pas si nous avons le temps d'entendre une réponse. Outre les partenariats avec les organisations de jeunes, qu'allez-vous faire à l'ONU-SIDA même pour adapter votre vocabulaire à celui des jeunes et nous permettre d'avoir accès à ce qui se passe au débat. Merci. Tout d'abord, je dois dire que le vocabulaire utilisé dans ces documents internationaux, c'est le vocabulaire que personne n'utilise. Moi-même, souvent, je ne comprends pas ce qu'on raconte dans ces documents. C'est une vraie maladie, en fait, et souvent, il y a une raison pour cela. La raison, c'est que bon nombre de ces textes sont le résultat de compromis très durement négociés. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Ce que nous tentons de faire, c'est de promouvoir le plus possible la cause des jeunes. Partout où je vais, je dis que les jeunes doivent être à la table. Si l'on reste dans le système de l'ONU, il n'y a pas d'avenir pour une action réelle des jeunes. Il ne suffit pas de rester entre nous, de parler entre nous. Voilà pourquoi il faut créer de vraies alliances avec les organisations de jeunes, de la société civile, parce que les jeunes, que ce soit le YMCA, les scouts, les rappeurs, les groupes de voisinage. Donc, peu importe, il faut rejoindre les jeunes là où ils se trouvent. Et comme dans toutes les agences de l'ONU, ce que fait le FNUAP d'ailleurs, il y a des stages à l'intention des jeunes. Ils peuvent venir passer un certain temps au sein de l'organisation. Non seulement c'est bon pour les jeunes qui en tirent avantage, mais c'est bon aussi pour l'organisation elle-même parce qu'elle peut avoir du sang neuf et chaque jour apprendre à mieux connaître les problèmes des jeunes. Donc il faut être toujours... nous harceler peut-être, pourrais-je dire, pour qu'on n'oublie jamais vos problèmes. Mais dans chaque pays, il devrait y avoir un dialogue constant entre l'institution de l'ONU responsable et les jeunes pour que l'on tienne toujours compte de cette perspective. Merci. Il y a une question pour les trois leaders. Je vous prierai d'être bref. Il restait très peu de temps, mais c'est une question à votre intention, à vous tous, donc les trois leaders mondiaux. Merci. Ma question a déjà été abordée par chacun d'entre vous, mais je voudrais souligner que le thème de notre séance, c'est de la rhétorique à l'action. J'aimerais donc que vous nous disiez quels sont les engagements concrets que vous pouvez prendre pour permettre aux jeunes de participer à ce que vous faites. Il pourrait s'agir, par exemple, d'un programme de stage à l'ONU-SIDA, comme vous l'avez dit, ou peut-être encourager les gouvernements à parler de l'homosexualité, des préservatifs, des droits de la personne des travailleurs du sexe. Il faudrait aussi peut-être que les cliniques accueillent mieux les jeunes. Donc, quelle sera la mesure concrète que vous prévoyez mettre en place? Merci. Je vais faire la traduction pour la, à l'intention de la première dame. On demande quel est l'engagement concret que vous pouvez prendre pour assurer la participation des jeunes. Et il y aura aussi, donc elle a fait aussi, dit à la fin que les jeunes vont s'assurer que vous respectez ces engagements concrets. Eh bien, dans l'ordre, je dirais, je suis ministre depuis 6 ans maintenant, et certains des engagements pris au début ont déjà été respectés. Par exemple, le programme d'éducation sexuelle, c'est déjà une réalité, l'accès universel au traitement. Tous les patients sont inscrits à un nouveau programme. Cela a permis de multiplier par 14 le budget consacré au VIH-Sida dans mon pays. Il y a aussi une campagne très, très efficace contre la stigmatisation, la discrimination, qui a même été récompensée à l'échelle internationale. Ce sont donc des engagements concrets qui ont déjà été réalisés. Et en ce qui me concerne, en prévision de la conférence internationale 2008 qui aura lieu, donc, au Mexique, et nous en sommes très honorés, sommes très enthousiastes, nous voudrions doubler le nombre de participations, de participants jeunes, et nous travaillons avec tous les participants à cette conférence de 2008 pour nous assurer que vous aurez voix au chapitre, une participation très forte, et j'espère que vous veillerez à ce que nous réalisions cet engagement justement. L'engagement que je pourrais prendre est en premier lieu de réaliser grâce à cette coalition de leaders féminins et premières dames de briser le silence qui existe, contrer la stigmatisation et je pourrais m'engager aussi à créer plus d'espace pour permettre un dialogue avec les jeunes et que les jeunes reçoivent aussi toute la préparation nécessaire pour faire face à la vie. Voilà donc l'engagement que je pourrais prendre à cet égard. Eh bien, c'est mon tour. Premièrement, oui, cette année, nous allons créer un programme de stage au secrétariat de l'ONU-SIDA. Je parle pour l'instant de l'ONU-SIDA uniquement. Et deuxièmement, je suis très fière qu'en Inde, et l'Inde n'est pas représentée ici. Oui, vous? D'accord. Il y a eu un grand forum de jeunes qui a réuni, je pense, 4000 jeunes du pays, qui a permis un dialogue direct avec les leaders, y compris le Premier ministre et les représentants des différents États. Et nous souhaitons organiser ce genre de manifestation dans d'autres pays parce que ça porte la participation des jeunes à un niveau décisionnel. Deuxièmement, cela peut paraître bureaucratique, mais nous allons nous assurer de mieux faire au sein de l'ONU, avoir une approche unifiée pour ce qui est des questions qui touchent la jeunesse, parce que ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc il faut commencer par mettre par soi-même. Merci. De quelle façon pourrait-on contribuer à la lutte contre le VIH-Sida? En tant que leader jeune, comment peut-on contribuer à l'élimination du VIH-Sida dans nos sociétés?
Well, I think
ce qui est bien, c'est que tout adulte a été un jeune dans le passé. Et vous-même atteindrez un jour l'âge adulte. Donc, il faut créer des ponts. Il faut profiter de l'empathie naturelle. Parfois, il faut il est nécessaire de rappeler aux adultes qu'ils ont été jeunes un jour. Et comme l'a dit Monsieur Bond, il faut que vous nous rappeliez ce que nous avons été quand nous étions jeunes et créer cette empathie, ne pas permettre à tous de bien réaliser que nous avons tous été des jeunes, nous avons tous eu des rêves, des idéaux, et il faut, bon, espérons que nous avons été à la hauteur de nos idéaux. Et si vous faites appel à ce sentiment chez tous les adultes, cela permet de mieux défendre votre cause et briser cette idée absurde que les jeunes sont trop irresponsables, n'ont pas d'expérience. Au contraire, c'est une force motrice qui peut faire avancer la société. Et vos organisations, les organisations de jeunes dans la société civile, ce sont ces organisations qui doivent exercer des pressions sur les gouvernements, les législateurs, les décideurs, ce qui permet d'organiser les jeunes. C'est ce que j'ai aimé justement ici. Vous êtes devenu une vraie force. Vous nous avez invités à répondre à vos questions, à écouter vos attentes. Et comme vous venez de faire, prendre des engagements très concrets et nous dire que vous allez vérifier si ces engagements ont été respectés. Je dois vous en féliciter. Une pause. L'honorable première dame doit nous quitter. Merci beaucoup.
Dr. Piot, thank you.
Four points.
Quatre observations. Premièrement, il faut savoir ce que l'on veut. Il faut avoir une stratégie en tête, des objectifs bien précis. Deuxièmement, il faut parler aux dirigeants de façon franche et honnête, ne pas accepter des réponses négatives. Troisièmement, il faut s'organiser. En tant qu'individu, on ne peut rien faire, mais en groupe, on peut faire beaucoup. Quatrièmement, créer des alliances stratégiques, parce que vous avez des alliés. Et si vous avez tous ces ingrédients, vous réussirez à déplacer des montagnes. Et je compte sur vous, justement, pour le faire. Merci. Dernière observation, Emeka. Il y a plus de 1000 jeunes réunis ici à cette conférence de plus de 150 pays, représentant différentes races, différentes couleurs, cultures. Et nous faisons tous face au même problème, le VIH-SIDA. Combien de jeunes doivent se lever pour que leur voix soit entendue? Combien d'autres doivent mourir encore pour que leur appel soit entendu? C'est maintenant, c'est ici, aujourd'hui, qu'il faut agir. Nous sommes unis dans le travail que nous faisons, mais c'est maintenant le moment d'agir. Nous devons relever le défi. Nous sommes l'eau courante qui peut éteindre les flammes du VIH-SIDA. Nous sommes aussi la voix des jeunes, des enfants, et qui nous appellent à l'aide. Nous sommes ici en solidarité. Et que faudra-t-il faire d'autre pour que vous nous entendiez? Que pouvons-nous faire encore pour, en tant que jeunes? L'argent, les ressources, c'est ce dont nous avons besoin. Il faut que vous nous joigniez à nous dans cette course contre le temps. Merci. Comme j'ai dit, nous manquons de temps, donc... Je voudrais dire que ceci a été un dialogue très fructueux entre les leaders et les jeunes. Nous remercions les leaders des engagements concrets qui ont été pris et j'attends avec impatience de vous revoir tous à Mexico en 2008. Merci Dr. Piot, Dr. Frank et merci aux jeunes leaders. Merci. à tous.